RMC Motors. Jean Lecroix.
13h-14h, comme chaque dimanche, l'actu automobile avec Motors, s'actu dominé aujourd'hui par le Grand Prix d'Autriche. Et si Mercedes ne gagnait pas aujourd'hui, c'est possible ou c'est pas impossible? On va voir ça dans un instant, n'est-ce pas, Jean-Luc Roy? C'est ma première avec toi, Jean-Luc, je suis ravi.
Oui, bonjour Julien Pichenet, bienvenue dans Motors, c'est un plaisir de t'accueillir, surtout que tu as raison, l'affiche est magnifique aujourd'hui en matière de sport mécanique.
On va se régaler en voiture également avec nous, Adrien Tambay. Salut Adrien.
Salut messieurs, salut à tous.
Et Lucas Vinois qui est l'envoyé spécial de RMC sur ce 9e Grand Prix de l'année, Lucas Perché dans les montagnes de Styrie. Il nous entend, Lucas?
Oui, il est là, oui. Il est bien là, Lucas. Bonjour Julien, bonjour à tous.
C'est le premier Grand Prix d'Autriche depuis la disparition de Niki Lauda. C'était le mois dernier. Quelqu'un sait si un hommage est prévu pour célébrer la mémoire de Niki Lauda, Jean-Luc?
Bah écoute, je ne peux pas imaginer qu'il n'y en ait pas, parce qu'effectivement c'est le premier Grand Prix d'Autriche et on rappelle quand même le palmarès de Niki Lauda qui a été trois fois titré champion du monde. Et ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est après cet accident terrible que tout le monde connaît depuis le film Rush notamment, bon, les fans de F1 connaissaient ça au Nürburgring, et bien il a réussi à décrocher deux titres de champion du monde supplémentaires, le dernier en 84 face à Alain Prost. C'est également quelqu'un qui a totalisé 25 victoires en Grand Prix. En matière de pole position également, Lauda en a totalisé 24, bref. Et puis en plus il avait, c'est une figure morale quelque part, c'était un gardien du temple. Il avait son franc-parler, Niki Lauda, qui était le président non exécutif de l'équipe Mercedes. Il savait parler aux pilotes, il savait donner un avis sur tout ce qui n'allait pas en Formule 1, et il y en avait des choses. Il va manquer à beaucoup de monde, vraiment, non seulement en Autriche, non seulement chez Mercedes, mais chez tous les fans de sport mécanique. Et moi j'avoue que sa disparition m'a vraiment beaucoup attristé.
Lucas Vinois, on sait si quelque chose est prévu là, toi qui as sûrement vu le programme du jour?
Ouais, le virage numéro 1 déjà va être rebaptisé le virage Niki Lauda. Des casquettes rouges ont été placées sur chaque siège des tribunes du Red Bull Ring. C'était un petit peu le symbole de Niki Lauda, lui qui portait toujours cette fameuse casquette rouge. Et puis dans un espèce de tunnel, puisque le paddock est un petit peu particulier, on arrive au circuit, il faut passer dans un tunnel pour ressortir au niveau du paddock et au niveau des stands. Et dans cette longue allée, il y a des photos de la carrière de Niki Lauda avec tous les plus grands champions, avec notamment Alain Prost, avec notamment Toto Wolff aussi, puisqu'on le sait, il avait un rôle majoritaire chez Mercedes. Donc voilà, il y a sa Ferrari aussi qui est entreposée, son trophée de 1984 quand il avait gagné en Autriche. Donc oui, l'hommage est bien présent pour ne pas oublier et commémorer surtout ce grand champion.
Ouais, sa seule victoire en Autriche, c'était il y a 35 ans. Messieurs, on va évoquer tout de suite, c'est parti, le Grand Prix d'Autriche 2019 qui s'annonce passionnant. Go!
RMC Motors.
190, 150 mètres, droite 120.
Le briefing.
Mercedes rafle tout, vous le savez depuis le début de la saison. Mercedes peut s'imposer d'ailleurs pour la 11e fois de suite depuis 10 Grands Prix. C'est soit Bottas, soit Hamilton, qui est largement en tête du classement en cette fin juin, qui s'impose. Mais là, j'ai envie de dire enfin, là on a une grille de départ qui nous change un peu avec Charles Leclerc en pôle. C'est toujours, Adrien Tambay, on a l'impression un circuit à part. Il y a pas mal de surprises en Autriche, non?
Bah déjà, c'est un circuit très court, l'un des plus courts de l'année, 4,3 km, et surtout celui où il y a le moins de virages. Donc c'est toujours très très serré. Des virages qui sont très rapides, donc les écarts entre les pilotes sont réduits. C'est difficile de faire la différence, mais en plus de ça, c'est un circuit compliqué parce qu'il y a pas mal de dénivelé, du dévers à la fois positif par moment et négatif ensuite. On a une Ferrari qui se comporte super bien depuis le début du week-end et un Charles Leclerc impressionnant, un zéro faute. On n'a pas vu une seule corde manquer depuis le début des essais libres et c'est assez impressionnant. Il semble être vraiment dans la bulle, dans un état second comme il l'était d'ailleurs à Bahreïn plutôt dans la saison.
Ouais, là où il avait été en pôle également. On va parler de Charles Leclerc, de sa performance lors des qualifs et de ses chances tout à l'heure. Encore un petit mot, Jean-Luc, sur ce circuit d'Autriche qui a souvent été à part. Il y a eu des drames en Autriche, il y avait eu un mort en 75, Marc Donohue. Il y avait eu aussi en 85 les tonneaux d'Andrea de Serrazis. Mais depuis, c'est plus le même tracé, il a été redessiné, hein.
Absolument, Julien. C'est-à-dire que à l'époque de Patrick Tambay, que je salue très amicalement et très chaleureusement, c'était ce qu'on avait coutume d'appeler un je sais bien que nos compagnes vont couiner, mais un circuit d'homme, un circuit où il fallait énormément de courage. un circuit qui partait dans la montagne, parce que après ce premier virage numéro 1, justement, au lieu de monter sur la colline et de tourner à nouveau à droite, ce qu'évoquait Adrien il y a un instant, eh bien on partait dans la montagne, vraiment loin, il y avait des tribunes naturelles sur les collines. C'est un circuit qui faisait plus de 6 km de long, un circuit qui était dangereux parce qu'il était entièrement bordé de rails de sécurité. C'était ce qui se pratiquait à l'époque, avec des vitesses extrêmement élevées. Tu l'as rappelé, il y a eu des drames. C'était un circuit extraordinairement sélectif. Alors après, il y a eu une interruption.
Il a été complètement... C'est ça, hein, Jean-Luc. Pendant 10 ans,
oui, c'est ça,
le Grand Prix d'Autriche ne figurait plus dans le calendrier.
Absolument, il avait totalement disparu et il a fallu la volonté. Moi, j'ai connu les circuits. On était d'ailleurs au bord de la piste à l'époque derrière le rail. Je peux te dire que à l'époque des turbos qui développaient 1200 à 1500 chevaux en qualification, rien que d'en parler, tu vois, j'ai les poils des bras qui se dressent. C'était un spectacle, non mais ahurissant.
Et on pouvait pas doubler. C'était ça la particularité en Autriche. On pouvait pas doubler ou quasiment. Il y avait jamais de dépassement.
Avec du courage, ouais. Parce qu'en plus c'est un circuit très vallonné, comme nous venons de le dire. Donc les pilotes devaient anticiper les courbes masquées qui se trouvaient derrière. Il n'y avait qu'une trajectoire. Il fallait un courage formidable pour y décrocher une victoire. Et effectivement, Niki s'était imposé sur son terrain lors de sa dernière saison. Et c'était un spectacle magnifique. Enfin, encore une fois, les pilotes le sont toujours, hein, mais à l'époque, comme à moto, les pilotes étaient vraiment des héros.
En tout cas, bon, depuis cette période que tu évoques, Jean-Luc, le circuit a donc été redessiné. On va regarder la grille de départ, hein, pour cet après-midi. Ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Première ligne, Charles Leclerc, le monégasque au volant de sa Ferrari, et Max Verstappen, le tenant du titre, au volant de sa Red Bull. Deuxième ligne, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, et oui, c'est ça la grosse surprise, Lando Norris est en troisième ligne avec Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, et en quatrième ligne avec Pierre Gasly. On parlera, hein, des résultats des Français Gasly et Grosjean tout à l'heure en détail. Sébastien Vettel en cinquième ligne avec Kevin Magnussen. Donc, messieurs, le monégasque Charles Leclerc, 21 ans, a grillé la priorité au Mercedes au volant de sa Ferrari hier lors de ses qualifs. Il a reconnu avoir eu des sensations incroyables. Tu le disais, Adrien, c'est sa deuxième pole après Bahreïn. Jean-Luc, Lucas, Adrien, je veux tous vous poser la même question. On est surpris en ce moment quand c'est pas Mercedes qui est en pole. Est-ce qu'on peut, question très simple, hein, allez, je commence avec toi, Adrien, est-ce qu'on peut avoir une grosse surprise cet après-midi?
Bah, ça serait pas une vraie surprise à partir du moment où Ferrari est performant depuis le début du week-end, et Charles est en maîtrise de son sujet comme il l'était à Bahreïn. Maintenant, c'est sûr que par rapport à la physionomie du championnat, ça serait effectivement, enfin, une surprise. Non, pas vraiment, parce que comme je le disais, il est vide depuis le début du week-end. Maintenant, il va falloir faire attention parce qu'on a le tenant du titre, c'est Max Verstappen. Je pense qu'il s'attendait pas à être deuxième sur la grille. Il a une Red Bull qui est très facile sur les pneumatiques, qui part avec les bons pneus justement en course. On en parlera plus tard, mais faut pas l'oublier non plus. Donc ça va pas être une bagarre à deux ou à quatre entre les Ferrari et les Mercedes. Je pense qu'il faut pas oublier la Red Bull de Max Verstappen.
Évidemment, le tenant du titre, Lucas Vinoy, en Autriche. Est-ce que tu as vu Charles Leclerc après sa qualif? Il t'a semblé comment?
Bah, toujours un petit peu réservé. Il sait que le plus dur reste à faire, hein. À Bahreïn, il était devant Charles Leclerc, et pourtant il ne s'est pas imposé à cause d'un problème technique. Pareil pour Sébastien Vettel, qui était devant au Canada et qui a manqué la victoire à cause d'une pénalité qu'on peut contester. Mais en tout cas, la vérité, elle est claire, hein. C'est que Mercedes a remporté tous les grands prix depuis le début de la saison. Maintenant, c'est ce que disait Adrien, et j'abonde en son sens. C'est peut-être finalement pas une très bonne nouvelle de voir Lewis Hamilton pénalisé. Pourquoi? Parce que le Britannique joue le championnat, parce qu'il prend pas forcément beaucoup de risques au départ, ce qui est tout le contraire de Max Verstappen, qui lui n'a pas la voiture pour gagner cette année, qui se voit donner une opportunité rêvée et complètement inattendue devant son public. Il faut le dire qu'il joue à domicile, il y a 25 000 supporters bataves qui sont surexcités, qui vont pousser le fougueux néerlandais. Donc attention, ça peut être électrique au premier virage. Leclerc va connaître un des premiers tours de roue sous tension, ça c'est sûr.
On va écouter Charles Leclerc sur l'importance précisément qu'aura le départ tout à l'heure à 15h10. Je vous rappelle que la course, on la suivra en intégralité évidemment sur RMC.
Le départ, en tout cas le premier tour, ça va être compliqué. C'est sûr qu'on a un avantage en ligne droite. Si je fais un bon départ et je suis devant après le premier virage, l'aspiration va faire pas mal de différence. Donc voilà, il faudra rester devant.
Leclerc partira donc en pôle à 15h10 devant le tenant du titre Max Verstappen. Vous en avez déjà parlé, messieurs, il y aura pas mal de fans dans le public, tu le rappelais, Lucas. Quelles sont les chances de Red Bull aujourd'hui? Elles sont bonnes selon vous? On va écouter Max Verstappen. Et selon lui, Red Bull a très très bien réussi ses qualifs.
Bien sûr, ça a été une très bonne qualification pour nous. Depuis le début du week-end, toutes les évolutions que nous avons amenées sur la voiture ont porté leurs fruits. Elles ont très bien fonctionné, que ce soit du côté de la monoplace ou du moteur. Très content d'être troisième. On va essayer de rééditer la même performance que l'année dernière. Je dois avoir un peu de chance pour y arriver, mais notre qualification est meilleure que celle de l'an passé. Très heureux de notre position sur la grille et nous allons essayer d'aller encore plus haut.
Jean-Luc, toi tu penses que ça va démarrer très très fort, le premier virage, on t'a entendu hein, tout à l'heure dans les grandes gueules, tu penses que le premier virage il va se passer quelque chose là, d'emblée dans ce Grand Prix?
Écoute, je suis partagé, bien sûr je souhaite toujours qu'il y ait du spectacle en Formule 1, mais j'espère qu'il ne se passera pas de drame, j'ose le mot. Charles a un avantage, hein, deux pour être précis, bien sûr il part devant, il est en pôle et il a les pneumatiques soft, les pneumatiques les plus tendres, Adrien vient de l'évoquer il y a un instant, puisque la stratégie notamment des pilotes Mercedes, Bottas et Hamilton, ainsi que celle de Max Verstappen qui partira aux côtés de Charles, c'est de partir en pneu médium. Or on sait que ces pneumatiques normalement sont moins efficaces dans les premiers mètres au moment du départ, on l'a vu à plusieurs reprises dans le passé, donc c'est un petit avantage pour Charles qui partira du bon côté de la piste, nettoyé et adhérent, donc logiquement si il réussit son départ et que Max Verstappen ne réussit pas mieux le sien, j'espère qu'il reste devant. Alors après, ce sera une question de maintenir ses pneus en vie le plus longtemps possible. Et puis Charles a parlé d'Aspi aussi, évidemment. Dès le deuxième tour, on active le DRS puisque la direction de course permet d'effacer l'aileron arrière. Et là, c'est clair que la cavalerie va parler dans les trois lignes droites du circuit.
Est-ce que c'est le véritable réveil de Ferrari? Car on a parlé de Charles Leclerc, mais il y a aussi Sébastien Vettel qui est en cinquième ligne. Et est-ce que Ferrari doit favoriser Leclerc dans ce Grand Prix, Adrien?
En tout cas, Charles se met dans les meilleures conditions pour être celui qui est favorisé. Là, le focus, il va être entièrement sur lui. On a un Vettel, bien sûr, qui va avoir son équipe derrière lui pour essayer de remonter. Il va aussi avoir ses pneumatiques soft pour essayer d'aller dépasser et gagner le plus de place possible en début de course. Mais ça va être un vrai challenge pour lui parce qu'il va être partagé entre l'attaque, remonter, mais en même temps garder ses pneumatiques. Ça va être compliqué pour Vettel. Maintenant, comme le disait Jean-Luc, pour Charles, il s'agit de prendre un bon départ sur ce circuit qui est un peu spécial parce que les deux premières lignes droites sont en montée, donc le phénomène d'aspiration est décuplé. Et il s'agira de prendre la poudre d'escampette le plus vite possible pour Charles, pour être en dehors de la zone d'attaque une fois que le DRS sera activé.
Vous avez vu, j'imagine, hein, les images hein, de Sébastien Vettel, dont l'attitude a été remarquée hier. Il allait chaleureusement réconforter son équipe après ce problème qui l'a empêché de partir en Q3. On imagine, Lucas Vinois, que cette image, cette scène a fait beaucoup parler en Autriche.
Oui, bien sûr, mais c'est tout à l'image de Sébastien Vettel qui, il faut le dire, grand seigneur dans la victoire comme dans la défaite et qui a voulu tout de suite positiver et se dire que finalement son problème n'était pas si grave que ça et que l'important était de voir son équipe, à savoir la Scuderia Ferrari, au niveau, ce qui n'est pas le cas forcément depuis le début de la saison. Il a préféré s'attarder sur la très bonne performance donc de Charles Leclerc qui est quand même son coéquipier et son plus proche rival. Donc bon, ça a été remarqué, mais ce n'est pas étonnant de la part du quadruple champion du monde.
C'est sa personnalité. Jean-Luc, on va pas distribuer les bons points et les mauvais points, on n'est pas là pour ça, mais tout le monde n'aurait peut-être pas réagi comme lui, non?
C'est vrai, mais je pense qu'il est en train de s'acheter une petite conduite, j'ose dire, parce que Vettel, on l'a vu râler parfois à très bon escient, par exemple contre la pénalité qu'il a frappée au Canada, et on pourra en discuter éternellement, je crois que le débat est clos. Mais c'est vrai que je comprends sa frustration. C'était le plus rapide sur la piste, c'est lui qui est devant. C'est une pénalité qui le prive de la victoire. Mais parfois, on l'a vu un peu capricieux en début de saison par rapport aux consignes d'équipe, justement, qu'il estimait parfois ne pas être assez à sa faveur. Mais je crois que Charles, il fait le boulot depuis 3 Grands Prix. Hein. Moi, je note qu'au Canada, il était devant Vettel. En France, il était devant Vettel. Et là, il est devant tout le monde. Ça veut dire que Charles le sait. Pour avoir une chance de jouer pleinement sa carte au championnat, il faut qu'il devance Vettel. Et je crois que l'équipe Ferrari va devoir se consacré à la pépite qui est Charles Leclerc.
On va parler des Mercedes, évidemment, et ce coup de tonnerre, hein, Hamilton qui a été battu et pénalisé hier. Hamilton et Bottas qui avaient dû abandonner en Autriche l'année dernière pour cause de problèmes techniques, problèmes hydrauliques pour Bottas et une pression d'essence pour Hamilton. Il y a un problème avec les Mercedes en Autriche ou pas, Adrien ?
Je sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est clair que l'année dernière, c'était pas leur course. On avait vu aussi dans le passé, ça avait été l'endroit où il y avait eu des frictions entre les deux coéquipiers. On se souviendra de la bataille entre Rosberg et Hamilton. Ça avait frotté, enfin plus que frotté même. Il y a eu pas mal de rebondissements de leur côté sur ce circuit de Spielberg. Maintenant, je pense que ça va être vraiment intéressant. On a un Hamilton qui part un peu derrière, qui va quand même vouloir remonter. On sait que même s'il gère le championnat, il va vouloir aller gagner. Il est pas là pour faire second. Et puis on a un Vettel qui part derrière. On a un Gasly aussi qui part derrière. C'est un circuit où, malgré les virages rapides, on arrive quand même à suivre le pilote qui vous précède, parce que c'est assez court et il y a des longues lignes droites. Et avec ce phénomène d'aspiration, le fait que c'est, on le répète, mais c'est ligne droite soit en montée, les opportunités de dépassement normalement sont nombreuses.
Presque 13h20, vous écoutez Motors comme chaque dimanche sur RMC entre 13h et 14h. On vous rappelle qu'à 15h10, il y aura à suivre sur RMC le 9e Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Autriche qui s'annonce extrêmement excitant. Il le sera, c'est sûr, parce que Charles Leclerc, au volant de sa Ferrari, le monégasque de 21 ans, s'élancera en première ligne aux côtés de Max Verstappen, Lewis Hamilton, qui, avec son coéquipier Valtteri Bottas, rafle tout depuis le début de la saison, s'élancera en deuxième ligne depuis le début de la saison et même un petit peu au-delà, hein, parce que les Mercedes visent une 11e victoire de suite, 11 victoires de suite pour le même constructeur. Ce n'est pas arrivé depuis les McLaren d'Alain Prost et d'Ayrton Senna en 1988, soit 31 ans, c'est quand même incroyable. Donc Hamilton battu et pénalisé hier, il a été coupé d'une pénalité pour avoir gêné Raikkonen lors de la Q1, c'est mérité, il a dit, il n'a pas polémiqué là-dessus. Ensuite, il était un petit peu allégorique, il devient peut-être un peu mystique Hamilton, hein. Demain est un autre jour, une opportunité de s'élever, certaines choses sont envoyées pour nous tester, a-t-il dit. Ça te fait rire, Adrien, il vient un peu mystique ou
ouais, non,
il
a toujours été comme ça? Je pense que c'est son état d'esprit depuis quelques années. On sait qu'il adore le milieu de la mode, le milieu de la chanson, c'est un ouais. peu son côté artiste là, qui reprend le dessus.
Et très jet set.
Très jet set ouais. aussi, mais c'est quelque part comme ça que ça fonctionne chez lui, et mentalement, à chaque fois qu'il a une déconvenue, il arrive tout de suite à reprendre le dessus, et si c'est sa façon de faire, ben tant mieux. Quelque part, il est très positif. Le fait quand même d'avoir du recul et d'accepter la pénalité hier, aussi bien qu'il l'a fait, ça montre que c'est un grand champion et qu'il est déjà focalisé sur la course d'aujourd'hui.
Ah, il veut être premier, hein. Il n'y a ouais. que la première place qui m'intéresse, il l'a rappelé. Il a reconnu aussi sa défaite quand même hier, on l'écoute.
Ce n'était pas possible de battre les Ferrari, Charles est devant et pourtant j'ai fait un très bon tour. J'espère qu'il y aura une bataille en piste, mais les Ferrari, les Red Bull et nous-mêmes sommes très proches en rythme de course. Cela va être très serré, surtout que tout le monde ne s'élancera pas avec les mêmes pneumatiques, donc la course va être encore plus excitante, mais les prochaines heures vont avoir une grande influence sur le reste du week-end, je pense.
Bon, il reste optimiste, hein, Lewis Hamilton. Jean-Luc, on peut gagner en Autriche quand on est en deuxième ligne, quand on est quatrième sur la ligne de départ?
Ah oui, surtout quand on s'appelle Lewis Hamilton et qu'on pilote une Mercedes, c'est clair qu'on l'attend partout, hein. On ne cesse de le répéter, c'est un champion exceptionnel, quintuple champion du monde, il faut le dire, qui est en train de pulvériser tous les records de son sport, hein. 79 victoires, 86 pôles. Bon, ça veut dire qu'Hamilton, quand il prend le départ d'une course, et il l'a dit, lui, il fera pas la saison de trop. C'est-à-dire que quand il aura compris que pour X raisons, il ne peut plus remporter le Grand Prix, je pense qu'il s'arrêtera, il passera à autre chose, il a d'autres centres d'intérêt. Pour le moment, il est tellement focalisé sur la victoire que même en partant quatrième, donc du fait de la pénalité qui a frappé Magnussen, hein, sinon il partait cinquième, et aux côtés de son équipier Valtteri Bottas, Hamilton, il va viser la victoire. Puis je rappelle cette histoire de pneumatique, hein, Charles est en soft, alors que Verstappen, Bottas et lui-même sont en médium, donc ils vont rester plus longtemps temps en piste. Ça veut dire que évidemment qu'il y a une carte à jouer pour Hamilton.
Alors parlons-en de Valtteri Bottas. Il partira devant lui en deuxième ligne également. Le Finlandais pense qu'il aurait pu finir deuxième de ses qualifs. Il était un petit peu déçu, pour ne pas dire énervé, hier.
Chaque année est différente. Je pense qu'il n'était pas possible de battre les Ferrari aujourd'hui. Mais de mon côté, j'aurais dû me qualifier en deuxième position. J'avais le rythme, mais j'ai eu du trafic lors de mon dernier tour rapide à cause de problèmes de communication avec l'équipe. Nous devons régler ce problème. Je pense que pour la course, nous avons un bon rythme. Et la question est de savoir comment nous allons dépasser nos adversaires. Je pense que nous serons proches en ce qui concerne les temps autour. Il y a aussi les stratégies pneumatiques différentes. Nous verrons comment elles fonctionneront.
J'ai relevé une phrase du patron de Mercedes, Toto Wolff, dans la presse cette semaine. On va pas en Autriche avec toute la confiance du monde. Ça peut être un week-end compliqué. Alors ça pouvait faire sourire de lire ça en début de semaine, tant Mercedes écrase la concurrence en début de semaine. Il y a des voix aussi qui s'élèvent, Adrien, pour dire que il y a pas vraiment de suspense en ce moment, cette saison en tout cas, dans le championnat du monde de Formule 1. C'est un peu prévisible et tout, mais là, c'est un peu différent. Est-ce que ça peut relancer la saison, ça, cette histoire
déjà les propos de
Leclerc,
de Toto Wolff, c'est quand même preuve d'une grande lucidité, de toujours se remettre en question et puis quelque part d'anticiper, parce qu'il avait vu juste. Bon, peut-être qu'il dit ça à chaque fois aussi, parce que c'est toujours mieux de pas être trop favori, mais en tout cas sur ce circuit, la Ferrari a l'air très forte. Ils ont, on le sait, hein, quasiment le meilleur moteur aujourd'hui, meilleur que le Mercedes, et ça Toto Wolff le sait, avec les problèmes qu'ils ont eu aussi dans le passé sur ce circuit. C'est un circuit où l'utilisation des pneumatiques, on peut en reparler, mais les Pirelli, c'est ça qui nous a un peu aussi rendu un Grand Prix de France soporifique. Ces pneumatiques-là ont une fenêtre d'utilisation un peu spéciale, que ça soit en qualification ou en course, et on sait que sur ce circuit, c'est d'autant plus, c'est différent, parce que tout simplement le circuit est plus court, il y a des longues lignes droites, donc on perd de la température dans les pneus entre les virages, et c'est un savant mélange entre trouver le bon équilibre au niveau des réglages de la voiture et surtout les bonnes pressions de pneus pour arriver à faire le meilleur tour possible.
Lucas Vinoy en Autriche, Mercedes ne domine pas, il y aura peut-être un doublé de Mercedes, hein, noté tout à l'heure, mais en tout cas Mercedes n'a pas dominé ses qualifications. Précisément le week-end où Mercedes peut aller chercher, peut aller égaler un record vieux de 31 ans avec 11 victoires de suite. Comment est l'ambiance là au sein du clan Mercedes? Est-ce que vous avez senti un petit peu de tension, un petit peu de d'énervement, un petit peu d'appréhension avant la course?
On s'affole pas chez Mercedes. On sait que la course sera longue, 71 tours à parcourir, que tout peut se passer. Mercedes est convaincu d'avoir la bonne stratégie pneumatique, et c'est vrai que Pirelli l'annonce de toute façon, partir en soft et après monter les pneus durs sur les monoplaces, c'est en général 6 secondes 2 moins rapide que la stratégie des Mercedes. Donc Ferrari va accuser un débours de 6 secondes 2 par rapport à l'écurie allemande, donc on ne s'affole pas. Maintenant, bien évidemment, on est à la chasse au record chez Mercedes. On veut remporter un 6e titre pilote et constructeur consécutif à la fin de cette année, ce qui serait un record, et pourquoi pas égaler un autre record, celui dont vous parliez tout à l'heure, à savoir celui de McLaren en 1988, 11 victoires d'affilée avec des pilotes qu'on connaît un petit peu et des illustres pilotes, ceux qui ont marqué l'histoire de la Formule 1, à savoir Alain Prost et Ayrton Senna. Mercedes domine depuis 2014, c'est 81 victoires en 107 Grands Prix, c'est plus de 75% de victoires, c'est 3 fois sur 4 une Mercedes qui s'impose. Depuis 6 ans, Lewis Hamilton a remporté tout simplement 53% des courses. Alors c'est pas une troisième et une quatrième place qui va inquiéter Mercedes, d'autant plus qu'on le rappelle, qui s'était imposé depuis la quatrième place l'année dernière, un certain Max Verstappen. Donc ça se trouve, Lewis Hamilton a la bonne place pour aller chercher la victoire en Autriche.
Et on précise que Lewis Hamilton, ayant 36 points d'avance au général, conservera sa première place au classement général, quoi qu'il arrive tout à l'heure dans ce Grand Prix d'Autriche. Jusqu'à 14h sur RMC, c'est Motors. On va reparler dans un instant du Grand Prix d'Autriche avec les Français Gasly, Grosjean et l'écurie Renault. On va faire le point sur les Français. Mais oui, il y a encore un petit truc que je voulais vous faire écouter. C'est le pétage de plomb, la réaction de Magnussen après la séance de qualification hier. Il s'est pris une pénalité XXL pour un changement de boîte. Écoutez ce que ça donne.
How's that?
P5.
Donc ça, en fait, c'est juste avant qu'il apprenne qu'il est rétrogradé.
Ça c'est la joie, tout simplement, parce que sur la piste, joie, il a fait cinquième, Kevin Magnussen, avec une Haas, et c'est quelque chose de fantastique, je crois, et ça montre qu'on n'est pas obligé de gagner des courses pour être heureux en Formule 1. Quand on a une voiture, on sait que c'est un sport mécanique, et on sait que la voiture peut pas faire mieux que cinquième en l'occurrence, et pour lui c'était une vraie victoire.
On va parler de son coéquipier dans un instant, Romain Grosjean, et puis également de Pierre Gasly. Les Français, tout de suite, on fait un petit point. On reparle dans un instant du Grand Prix d'Autriche. On n'oublie pas la MotoGP. Il y aura peut-être, on l'espère, en tout cas, une victoire française qui n'est pas arrivée depuis très longtemps en MotoGP. A tout de suite sur RMC.
RMC Motors. Jean Le Croix.
Jusqu'à 14h, Jean Le Croix et tout le reste de l'équipe, hein, Adrien Tambay, Lucas Vinoy qui est en Autriche. On va continuer d'évoquer ce Grand Prix d'Autriche, le 9e Grand Prix de la saison qui débutera à 15h10. Et ce n'est pas une Mercedes qui s'élancera en pole position, mais le jeune monégasque Charles Leclerc qui connaît là sa deuxième pole position. Et s'il s'impose, ce sera une première, hein, pour Charles Leclerc. C'est assez rare d'assister à une première en ce moment en Formule 1. Ce sera peut-être cet après-midi tout à l'heure sur RMC. Évoquons les Français. Pierre Gasly, tiens, le coéquipier de Verstappen, tout d'abord, il reconnaît que ça va pas fort en ce moment. Il s'élancera en 8e position. Il pense, en tout cas, il pensait après les qualifications qu'il aurait pu finir plus haut. Il y a eu des erreurs fatales. Pierre Gasly, on écoute.
RMC Motors, le French's Corner.
Déçu, ça veut pas se mettre ensemble. On fait une bonne qualif jusqu'en Q3 et en Q3 dans le dernier tour je perds la voiture au premier virage et je perds 4 dixièmes pour commencer le tour et au final ça nous met 9e, donc c'est vraiment dommage parce qu'on pouvait clairement faire 5 même si on pouvait pas aller chercher mieux que ça, mais ça aurait été quand même mieux donc forcément un peu déçu.
Quel résultat possible pour Pierre Gasly, Adrien?
Bah, en tout cas, remonter et être au moins derrière les deux écuries de test, c'est-à-dire cinquième au pire. C'est le résultat en fait qu'il pouvait espérer en qualification. Lors du premier run, il était seulement à 2 dixièmes et demi, 3 dixièmes de son coéquipier. Enfin, seulement. C'est un circuit quand même où c'est très serré. Et c'est peut-être un peu plus sur un circuit normal. Donc, c'est un peu inquiétant quand même pour Pierre. Encore une fois, on n'est pas dans l'écurie, on ne sait pas ce qui se passe d'un point de vue technique et d'un point de vue du développement entre les deux pilotes. On ne sait pas s'il a exactement les mêmes pièces sur sa voiture aussi. Mais c'est un peu compliqué pour lui depuis le début de la saison et dans son deuxième run, cette erreur fatale dans le premier virage, qui est un virage somme toute très compliqué à négocier, un peu en aveugle. Voilà, il a voulu trop en faire, il a perdu 4 dixièmes et ensuite, c'est tellement serré qu'il se retrouve 9e, mais c'est un guerrier et il va faire tout ce qu'il faut pour remonter et aller dépasser sur ce circuit autrichien.
Jean-Luc, il est loin derrière son coéquipier Verstappen pour l'instant, Gasly. Est-ce qu'il n'est pas urgent pour lui quand même d'avoir un gros résultat?
Ah oui, c'est évident. Écoute, on l'adore tous, hein. Pierre, c'est un excellent pilote. Comme le soulignait Adrien, on sait, sans trahir de secret, qu'il n'a pas tout à fait la même monoplace que celle de Verstappen, évidemment, qui bénéficie de toutes les attentions. Maintenant, il le dit lui-même, il commet des erreurs, et ça n'est pas admissible malheureusement dans sa situation. Il n'est qu'à 1 dixième du 5e, Lando Norris. Donc effectivement, comme il le soulignait, sans cette erreur majeure, il aurait été 5e sur la grille à la place de Norris, et c'était déjà nettement mieux. Après, il y a l'écart de temps qui le sépare de Verstappen. On a coutume de dire que 3-4 dixièmes, même s'il n'a pas la même auto, c'est déjà bien payé. Là, c'est énorme. Donc c'est clair que Pierre doit absolument se refaire. On a beau affirmer, mais on les connaît, hein, chez Red Bull, avec le docteur Helmut Marco et avec Christian Horner, que évidemment il est là jusqu'à la fin, etc. Mais on voit que ça piaffe derrière. Il y a des pilotes qui sont excellents, qui sont très rapides chez Toro Rosso, comme Alexander Albon, évidemment, le jeune Thaïlandais, ou Daniil Kvyat, qui a déjà connu l'ascenseur Red Bull, hein, monté chez Red Bull, redescendu chez Toro Rosso, viré, revenu, enfin, etc. Je crois que là, Pierre, il faut qu'il fasse claquer un bon résultat maintenant sur le terrain de Red Bull.
Claquer un bon résultat cet après-midi en direct sur RMC, ce serait pas mal, effectivement. Lucas Vinoy, Pierre, il s'était plaint en début de saison de ne pas avoir le même matériel que son coéquipier Max Verstappen. Il a fait marche arrière depuis. Et maintenant, là, fin juin, à mi-saison, c'est quoi son état d'esprit à Pierre Gasly à ce niveau-là?
Bon, c'est compliqué. Après, je ne sais pas comment vous avez perçu le son qu'on vient de diffuser, mais c'est terrible. Il est dépité, Pierre Gasly. Ça se passe pas très très bien. Il n'est pas dans son assiette. C'est quelqu'un de très souriant, de plutôt jovial, de très agréable. Alors il est toujours très poli. C'est toujours possible d'échanger avec lui, mais voilà, on sent qu'il n'est pas dans son assiette et qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. 8 dixièmes, c'est colossal. 8 dixièmes en Formule 1, c'est beaucoup trop. Alors après, est-ce qu'il a les mêmes pièces? Ça, de toute façon, chez Red Bull, on ne communique pas, et avoir accès à Pierre Gasly, c'est devenu de plus en plus compliqué. Il faut avoir la chance de le croiser par mégarde dans le paddock pour pouvoir essayer de tirer quelques informations. Mais voilà, moi je pense, et les informations sont à son égard sont pas très très bonnes, et s'il n'améliore pas ses résultats d'ici la coupure estivale, on n'est pas sûr de le voir encore dans le baquet de la Red Bull en Belgique à la reprise de la saison.
On va parler de Romain Grosjean maintenant. Il n'est pas passé en Q3, il est 17e au classement général. La semaine dernière, on avait reçu sur RMC dans les grandes gueules, il avait abandonné lors du Grand Prix de France, mais il s'était montré plutôt souriant. C'est une saison difficile quand même, Adrien, pour Romain.
Oui, c'est clair que c'est comme l'année dernière, en fait, une saison un peu compliquée. Bon, il avait eu un très bon résultat en Autriche l'année dernière, avec une 4e place, si mes souvenirs sont bons. Ça avait fait l'effet d'un déclic chez Romain. On l'a vu assez souriant au Paul Ricard, assez décontracté. C'était assez surprenant d'ailleurs.
Tu le sentais comment toi?
Non, je le sentais serein par rapport
à sa saison au cours.
Je le sentais serein. Pourtant, ça paye pas forcément. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que sa monoplace, bon, même si Kevin Magnussen hier arrive à faire à la régulière, en tout cas sur la piste 5e en Q3, sa monoplace est un peu plus en difficulté que l'année dernière par rapport aux autres écuries qui s'améliorent, notamment Renault et McLaren et Sauber. Donc, c'est un peu moins facile d'aller faire des bons résultats. Il y a quand même un peu moins d'erreurs de sa part que l'année dernière. Maintenant, il va falloir quand même que ça commence à payer. C'est un peu comme Pierre, il faut mettre des points dans la besace et inscrire. Voilà, c'est toujours le papier à la fin et les résultats qui comptent. Et il faut y arriver pour Romain, pour sécuriser son siège pour les années futures.
Jean-Luc, à quel résultat on peut s'attendre pour Romain Grosjean aujourd'hui?
Écoute, quand on part 11e, évidemment, entrer dans les points, mais est-ce que ça suffit pour ajouter à ce que viennent de dire Lucas et Adrien, le problème de, tu sais, le premier adversaire, c'est toujours son équipier, hein. Magnussen est régulièrement devant, tant en qualif et de beaucoup que en course. Alors, je veux bien qu'on invoque la malchance. Il a raison, Romain, comme on l'a vu effectivement au Grand Prix de France, d'avoir cette attitude positive, la positive attitude. On a bien compris que là aussi, on travaille psychologiquement pour essayer de lui donner des raisons d'espérer. Mais moi, je crois qu'il est gravement en danger également. Il faut être très clair, parce qu'il n'a marqué que 2 pauvres points, 2 fois 1 point depuis le début de la saison. C'est pas assez quand on est dans une Haas et qu'on a des ambitions plus élevées. Surtout quand on a un Magnussen qui fait claquer là, un 5e temps sur la piste. C'est pas assez. Il est derrière son équipier. Et ça ne peut pas durer comme ça non plus, hein. Il faut vraiment, alors il avait raison de le dire aussi à Adrien, il a fait un résultat miraculeux l'an dernier qui lui a redressé et même sauvé sa saison, j'ose dire. Est-ce que ça va être le cas cette fois-ci? Il faut rappeler qu'il y avait eu, il manquait les 2 Mercedes, etc. Ouais. C'est jamais diminuer le résultat d'un pilote que de dire ça, mais bon, rentrer dans les points, mais des gros points, on va dire 6, 7, 8, ce serait bien pour lui.
Voilà, j'ai retrouvé la déclaration de Romain Grosjean, hein, après les qualifications. C'est un peu contrariant, mais les pneus sont difficiles à comprendre. Je ne les maîtrise pas encore en qualification, comme c'est le cas en course. Ceci dit, je pense avoir fait un pas en avant ce week-end. 11e n'est pas une mauvaise position de départ. Et je peux choisir mes pneus.
Voilà, il aura choisi des pneus.
Oui, c'est aussi ça, hein, son avantage. Il n'a pas la moins bonne position puisqu'il n'est pas arrivé en Q3 et qu'il est le premier des autres, le premier de ceux qui ont le droit de choisir ses pneus. Il va pouvoir choisir sa stratégie à 100%. Et comme il le dit aussi, il a du mal à comprendre l'utilisation des pneumatiques et trouver la bonne fenêtre d'utilisation des pneumatiques, surtout en qualif. Mais je crois que c'est le problème de beaucoup de monde sur le plateau, à des échelles différentes et à des niveaux de performance différents. C'est juste qu'il manque un peu de perfo sur la voiture de Romain, et sûrement Kevin Magnussen arrive à en tirer un peu plus, faire quand même un top 5 en Q3, c'est très très belle performance. D'ailleurs, il était très joyeux, Kevin, et il a un coéquipier très très difficile à battre, donc c'est difficile pour Romain.
Même pénalisé, il reste devant, hein, ouais. Le coéquipier de Romain Grosjean sur la grille de départ. On va évoquer Renault maintenant, après un Grand Prix de France assez encourageant, on peut le dire, 8e et 11e pour Renault. Ricciardo et Hülkenberg ont fini 12e et 16e des qualifs. Hülkenberg, auteur du 12e temps, rétrogradé 16e pour avoir changé un élément de son moteur au-delà de la limite autorisée par par saison. Ça va être dur de prendre des points, Adrien.
Oui, ça va être un peu dur. Maintenant, je pense qu'ils ont aussi ils ont un bon moteur. Ils sont un peu au maximum du potentiel de leur monoplace en termes de réglage. Ricciardo et Hülkenberg ont tenté plein d'ajustements différents depuis le début du week-end et apparemment, ça ne change pas vraiment le comportement de la voiture, qui est très difficile en fin de phase de freinage avec le train avant, beaucoup de blocage de roues avant et donc moins de confiance sur les freins pour les pilotes, et c'est quand même le plus important en sport automobile et en Formule 1. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Ils sont apparemment un peu au maximum du potentiel de leur voiture, et puis pour revenir sur le Grand Prix de France, ça aurait pu être encore mieux sans la pénalité qu'on a donnée à Ricciardo, mais c'était un pas en avant, donc on espère que c'est pas marche arrière ici en Autriche.
On va retourner en Autriche justement voir Lucas Vignoy pour lui demander son avis. Lucas, comment tu évalues toi les chances de Renault dans cette course, dans ce Grand Prix?
Il y a un petit manque, hein. Il y a un petit manque côté châssis là sur ce circuit. Renault le reconnaît, c'est un petit peu difficile. On n'a pas réussi à exploiter le maximum de la performance de cette monoplace. On a cassé un aileron avec Nico Hülkenberg pendant les séances d'essais libres. On patauge un petit peu. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué ce Grand Prix pour Renault. C'est vrai qu'en France c'était pas mal, mais c'était pas aussi bien qu'escompté. Ici c'est un petit peu plus difficile. Voilà, on s'attend à un Grand Prix peut-être un peu compliqué. Maintenant, on va voir ce qui se passe devant. On sait que en course, il peut toujours se passer beaucoup de choses, mais on n'est pas là où on veut être. Et petite anecdote, Cyril Abitboul est sorti du briefing avec les ingénieurs un petit peu énervé. Donc voilà, on sait que chez Renault, on n'arrive pas à mettre pour l'instant tout dans l'ordre ici en Autriche pour aller chercher un bon résultat. Maintenant, il reste la course. Les qualifications, c'est 50%. Les 50 autres pourcents, c'est la course. Et on sait très bien que le dimanche, tout peut se passer.
Lucas, avant de te remercier et de te dire à tout à l'heure, ça va énerver le producteur Pierre Amiche parce qu'il trouve que je parle trop de météo, mais on n'a pas encore évoqué ce sujet depuis le début de Motor sur RMC. Il fait chaud en Autriche? Parce que ça peut jouer,
il fait très chaud. Oui, bien sûr.
Ah voilà,
important. Il fait très chaud en Autriche.
Plus chaud qu'hier, non, Lucas?
C'est très simple. Oui, plus chaud qu'hier, 52 degrés sur la piste et ça va grimper encore un petit peu plus, 33 degrés dans l'air. C'est la raison pour laquelle on doute un petit peu de la stratégie de Ferrari avec les pneumatiques soft. Voilà, on verra bien tout à l'heure, mais c'est une donnée à prendre en compte. Aussi, les pilotes vont souffrir, peut-être qu'on va avoir des petites erreurs et pourquoi pas, ça pourrait nous animer la course, et c'est tout ce qu'on demande.
J'adore les points météo dans les émissions de sport. Ça a son importance. Eh oui, ça a son importance.
Surtout en Formule 1.
Surtout en Formule 1, évidemment, et dans plein d'autres sports. On va parler dans un instant. Merci, hein, Lucas, et à tout à l'heure, 15h10.
Tout à l'heure.
Pour le coup d'envoi de ce Grand Prix d'Autriche. Jean-Luc Roy est toujours là. Il reste avec nous parce qu'on va évoquer maintenant la MotoGP. Adrien, reste aussi, ouais, s'il te plaît, jusqu'à 14h. On va évoquer le Grand Prix des Pays-Bas sur le mythique circuit d'Assen, la cathédrale de la moto, avec peut-être une victoire française, celle de Fabio Quartararo. En tout cas, il part en pole position tout à l'heure. Enfin, quand je dis tout à l'heure, c'est dans moins de 20 minutes, hein, 14h. Ce sera à suivre également sur RMC. A tout de suite pour la suite et la fin de Motors.
RMC Motors. Jean-Luc Roy.
Dernière partie de Motors jusqu'à 14h sur RMC. Jean-Luc, je sais que tu es très très excité par le programme de cet après-midi, parce qu'on va peut-être assister à une première en Formule 1 et peut-être aussi une première en MotoGP. Quel beau dimanche!
Écoute, ce serait génial. Bon, il faut jamais vendre la peau de l'ours. En l'occurrence, ce sera pas un ours parce que c'est en Hollande et que le pays est plat, tu le sais, mais sur le motodrome, le seul motodrome au monde, c'est ça qui paraît incroyable, ce circuit. Les Hollandais adorent la moto. Assen, on disait la cathédrale de la moto également, tu vois, à l'époque.
Tu vas nous dire pourquoi dans un instant. Il y a un petit jingle, hein, pour le radio
RMC Motors. Radio Paddock.
I can't believe it. Christophe Planet est là avec nous.
Salut Julien. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Adrien. Bonjour à tous.
Alors, Christophe, tu vas nous dire dans un instant, Jean-Luc, pourquoi c'est la cathédrale de la moto. Moi, ça m'intéresse. Je veux savoir pourquoi. Christophe, il y a déjà des résultats en moto 2 et 3.
Exactement. En moto 3, c'est le pilote italien Tony Arbolino qui s'est imposé au terme d'un mano à mano impressionnant avec son compatriote Lorenzo Dalla Porta. C'est le tchèque Jakub Kornfil qui prend la troisième place. Et puis en moto 2, ça vient de se terminer il y a quelques minutes. Profitant d'une série de chutes, le pilote espagnol Augusto Fernandez remporte la première victoire de sa carrière. Il devance le Sud-Africain Brad Binder. Je sais pas si t'as vu ça, Jean-Luc, mais on a vraiment eu un coup de théâtre, hein, car vraiment à deux tours de la fin, alors qu'ils étaient en passe de remporter cette course, Lorenzo Baldassari et Alex Marquez ont chuté, ouvrant ainsi la voie au pilote espagnol pour remporter sa première victoire en carrière, lui qui s'est lancé quand même depuis la 13e place sur la grille.
Et oui, j'arrive à faire plusieurs choses à la fois. Tu vois, je parlais de F1, mais je regardais la fin du Moto 2, effectivement.
Ça, c'est pas possible. Comment tu fais?
Mais si. Bah, écoute, tu sais, c'est la passion. Voilà, c'est. Écoute, effectivement, il y a eu un strike. On peut appeler ça. Il a perdu l'avant et il a fauché, effectivement, Alex Marquez. Et il a été s'excuser après Baldassari. Les deux se sont congratulés. Tu sais, à moto, il y a un immense respect. Tant les pilotes, effectivement, prennent des risques. On le dit à chaque fois. Alors, si tu veux bien, Julien, j'enchaîne directement sur. Pourquoi le temple de la moto.
Et puis, attends Jean-Luc, on va accueillir Jean-Claude Ogrel, ancien pilote de moto, Jean-Claude qui connaît bien aussi la cathédrale de la moto. Oui. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous dans Motors sur RMC. On est ravis, je vais vous laisser tous les deux parler de ça. Ça y est Jean-Luc, tu peux reprendre. Pourquoi la cathédrale de la moto? Et je poserai la même question également à Jean-Claude Ogrel qui connaît bien ce Grand Prix de la Seine.
Eh ben écoute, parce que donc c'est le seul motodrome au monde, je le disais, c'est un circuit qui a été construit, élaboré dans les années 60 à l'époque où effectivement les courses moto étaient totalement différentes, et c'est un circuit qui présentait à l'époque des conditions de sécurité supérieures aux autres. Tu sais qu'il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup de circuits naturels. Celui-là était bordé d'herbe, un circuit assez étroit d'ailleurs, très sinueux, et où le public est très très proche des acteurs, c'est-à-dire que à l'époque, on voyait vraiment les gens, on avait l'impression qu'ils étaient assis dans l'herbe et qu'ils regardaient passer les motos. Et c'est un circuit où on sent la moto, on respire la moto, on adore la moto. Et donc, effectivement, on y a vu des très grandes batailles. Et Jean-Claude, qui a eu la chance d'exercer son talent à l'époque où il était pilote de Grand Prix, ne me démentira pas, Jean-Claude.
Alors, oui, alors Jean-Claude, est-ce que c'était un tracé vraiment différent? Est-ce que toi, tu avais des sensations vraiment différentes à la Seine?
Oui, alors c'était déjà par rapport à tous les autres circuits, souvent, comme le disait Jean-Luc, souvent ce sont des routes ouvertes que l'on ferme pour le Grand Prix. C'est-à-dire qu'on ferme le circuit le jeudi, et puis on a les aisselles le vendredi, le samedi, la course le dimanche, et le dimanche soir, c'est rouvert et tout le monde repasse. Et Assen était une sorte de circuit fermé, donc c'était très intéressant. La piste était très étroite, et surtout, c'est un engouement populaire, ce qu'on dirait un stade. On se croirait dans un stade de football, c'est merveilleux.
Adrien Tambay, restez avec nous. Adrien, ça te fait penser à un circuit voiture, ça qui serait différent des autres, où il y aurait une atmosphère vraiment, vraiment différente?
Je crois que c'est un peu comme vous le disiez, messieurs, c'est un peu un stadium, comme il peut y avoir à Barcelone dans le dernier secteur, super pour les spectateurs, puisqu'on voit plus qu'un seul virage. Et puis, quand on regarde un Grand Prix moto à Assen à la télé, c'est toujours impressionnant parce que c'est très, très technique, et puis c'est étroit, mais en moto, on peut se doubler. Et la part d'ailleurs de la qualification est moins importante qu'en Formule 1, donc il y a toujours beaucoup de spectacles. Je crois que Valentino Rossi est très fort d'ailleurs à Assen sur un circuit très technique.
Et c'est pour ça que la tâche s'annonce difficile pour le Niçois de 20 ans, Fabio Quartararo. Christophe, tiens, on va faire le point sur la grille de départ avec toi. C'est donc un Français de 20 ans qui va s'élancer en pole position dans quelques minutes, dans 13 minutes précisément.
Exactement, le jeune Niçois de 20 ans, Fabio Quartararo, donc qui signe sa troisième pole position de la saison, la deuxième consécutive. C'est d'ailleurs le plus jeune pilote à réussir le back-to-back, entre guillemets, à signer deux pôles consécutivement. Il s'élancera donc devant Maverick Vinales, Alex Rins, Marc Marquez, le quintuple champion du monde, et en deuxième ligne à la quatrième place devant Johan Mir et Karl Crutchlow. Petite déception pour l'autre Français, Jean-Luc. En tous les cas, ça fait 20 ans, Jean-Luc, qu'on n'a pas eu un vainqueur français en catégorie reine. C'était bien sûr
Régis Laconi
au Grand Prix de Valence en 99. Ouais. Est-ce que Fabio Quartararo, après son premier podium la semaine dernière en Catalogne, est capable d'aller chercher une première victoire en carrière? Ce serait énorme.
Écoute, il en est parfaitement capable. Je crois qu'il a démontré son talent. Le problème pour lui, c'est le départ. Il l'a dit à plusieurs reprises. Je crois que si Fabio réussit à négocier son départ dans de bonnes conditions et aller à figurer, on va être modeste, dans les 3-4 premiers, eh bien la course est vraiment ouverte pour lui. Il a son problème régulièrement, les deux autres fois quand il avait signé la pole, c'est que malheureusement il se fait prendre dans le paquet, il se loupe complètement, il se retrouve 8 ou 10e, et après remonter, c'est quasi impossible, même à moto, parce qu'il doit taper dans ses pneus, et on sait qu'il les préserve pour la fin. Donc un bon départ de Fabio, je dis seulement un bon, même pas rester en tête, mais encore une fois être en compagnie de Vinales, Rins et Marquez surtout. Moi je redoute évidemment, comme partout d'ailleurs, Marc Marquez qui partira de la deuxième ligne avec son quatrième temps et la Honda. Mais c'est clair qu'il peut le faire, oui, bien sûr, il peut succéder à Régis Laconi, qui ne demanderait que ça, hein. Je l'avais eu au micro de Motors également, du Grand Prix de France, et Régis a un petit peu, bah oui, il attend qu'une chose, c'est qu'on efface des tablettes, bien sûr.
C'était il y a 20 ans, en 1999. Oui. Jean-Claude, le grand public découvre seulement maintenant Fabio Quartararo, on en parle de plus en plus depuis ces derniers mois. On imagine que tu le connais depuis un petit peu plus longtemps, ou que tu as entendu parler de lui pour la première fois il y a longtemps. Il te fait quelle impression, ce jeune niçois?
Franchement, je suis en admiration derrière ces résultats. Alors, quand il est arrivé en Espagne, il était très jeune, hein, il faut pas oublier qu'il n'a que 20 ans quand même. Il a été double champion d'Espagne, mais il était trop jeune pour passer en MotoGP. Donc la première fois, il était champion d'Espagne. Il est repassé encore une saison en championnat d'Espagne parce qu'il était trop jeune pour aller en MotoGP. Et là, honnêtement, en Moto 3, bon, c'était bien, il était évidemment dans les bons pilotes, mais rien d'extraordinaire. En Moto 2, la première année, il change d'équipe souvent, on se dit, bon, est-ce que ça va pas être le Richard Gasquet de la moto? C'est-à-dire, à 9 ans, on l'imagine champion du monde, et puis après... honnêtement, depuis qu'il est... c'est un peu dur ce que je dis, mais depuis qu'il est chez Petronas, avec visiblement une moto à sa taille, il s'adapte à ça, et là, honnêtement, je suis en admiration devant ses résultats, et sincèrement, à chaque fois que je le vois rouler, et je regarde évidemment tous les essais, le warm-up, etc., etc., il est d'une facilité déconcertante. Et là, c'est un Grand Prix où peut-être... Alors, le départ, Jean-Luc a complètement bien analysé la situation. Le départ, pour l'instant, c'est encore un peu juste pour un pilote de 20 ans. Quand on est encadré de Vinales, de Marquez, de Rossi, etc., c'est quand même pas facile psychologiquement d'aller se battre tout de suite dès les premiers tours. Par contre... il faut en profiter, parce que dans 15 jours, c'est le Sassion Ring. Et là, c'est le jardin de Marquez.
Oui, Jean-Luc, Jean-Claude, il faudra prendre un bon départ. On est tous d'accord pour Fabio Quartararo. Il faudra aussi éviter les chutes. Hein. Danilo Petrucci a chuté en essai libre 2. Jorge Lorenzo s'est mis une boîte monstrueuse. Hein, le pilote espagnol, d'ailleurs, qui ne participera pas à ce Grand Prix, puisqu'il s'en est sorti avec plusieurs fractures de vertèbres. C'est la cathédrale de la moto. C'est également la cathédrale de la vitesse, à Sen.
Oui, tu as raison. Et de toute façon, tu sais, le risque à moto, il est permanent. Les pilotes n'y pensent évidemment pas. Quand on a posé également la question à Marquez, qui domine évidemment le championnat, là aussi, malgré sa petite erreur, c'était à Austin, hein, où il était en tête et où il avait trop voulu en faire. Et il dit, est-ce que vous croyez que je chute 25 fois par saison pour mon plaisir? C'est que ces machines sont horriblement difficiles à maîtriser. On rappelle qu'il y a de l'ordre de 300 chevaux à passer sur la surface d'une carte de crédit. Ça donne un petit peu une idée de la maîtrise qu'il faut avoir, du courage qu'il faut avoir. Alors, Fabio, moi je suis exactement comme Jean-Claude, je suis sidéré par sa maîtrise, parce que, et je touche du bois en disant ça comme toujours, il a très très peu chuté, vraiment une fois ou deux depuis le début de la saison, ce qui est incroyable. De surcroît, il a été opéré, on s'en souvient, il y a peu de temps.
Bah oui, alors juste avant le dernier Grand Prix. Focus voilà, là-dessus, parce que c'est la question que je voulais vous poser, ouais. À Jean-Luc, à Jean-Claude et même à Adrien, qui connaît bien ça. Opéré début juin du syndrome des loges. Alors moi, je connaissais pas du tout, hein, le syndrome des loges. C'est une gêne musculaire dans les avant-bras, c'est ça, Adrien?
Médecin, mais effectivement, c'est en fait l'avant-bras, la musculature de l'avant-bras, qui est quand même le muscle, je pense, messieurs, vous pourrez confirmer, mais qui est mis le plus à rude épreuve en moto. Qui est en décalage par rapport au tendon, etc. Enfin, alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en fait, la plupart des pilotes moto dans leur carrière sont confrontés à ce problème-là et ils sont obligés de se faire opérer à un moment donné. C'est ça, Jean-Luc, non?
C'est ça, exactement. C'est-à-dire, on dit syndrome des loges parce qu'en fait, chaque muscle est dans une gaine. Et cette gaine, qui contient le muscle, bien sûr, hein, dans l'organisme, eh bien, cette gaine, le muscle grossit tellement à l'intérieur, voilà, de la gaine, qu'en fait, il manque d'oxygène. Il ne peut plus être irrigué. Le sang ne peut plus lui apporter l'oxygène dont il a besoin. Donc, on est carrément obligé, je suis désolé, on fait un peu de boucherie, là, mais d'inciser
cette gaine. C'est l'émission médecine d'RMC. Hein,
c'est l'émission, c'est la page, ouais. Médecine, exactement. D'inciser la gaine. Alors, c'est fait, évidemment, un peu différemment pour permettre au muscle de continuer à accroître son volume, parce qu'on rappelle qu'à moto il y a des efforts violents mais il n'y a pas beaucoup de mouvement, il n'y a pas d'amplitude dans le mouvement, donc voilà, congestion. Il faut permettre congestion, ouais. Exactement, il faut permettre au muscle de se développer et de respirer tout en sortant un petit peu de la gaine, voilà, c'est un peu simple.
Jean-Claude, ça t'est déjà arrivé ça d'avoir ce genre de gêne musculaire, d'avoir le syndrome des loges?
Non, j'ai pas souffert de ça, mais c'est vrai que quand on pilote des motos, alors faut dire qu'à mon époque les motos faisaient pas 300 chevaux non plus, hein, donc c'était un petit peu plus facile physiquement, les pneus étaient un peu moins larges, il y avait un petit peu moins d'appui, mais quand on pilote une moto, je le sais parce que je continue à rouler moi avec des motos modernes, c'est très très fatigant sur les avant-bras parce que c'est difficile, il faut se tenir vraiment sur le guidon, au freinage, notamment au freinage, c'est extrêmement difficile de se tirer dessus, et on a les avant-bras qui gonflent, et vous regardez les avant-bras de tous les pilotes de MotoGP, ils sont extrêmement musclés. Et donc, à un moment, ça ne passe plus.
Messieurs, il est peut-être l'heure. C'est dans... Ah, on a perdu Jean-Claude ?
Non.
Ah. Il est toujours là ?
Non, je suis là.
Ah, il est toujours là, justement, parce que j'allais vous demander. Ça démarre dans 5 minutes, hein, le Grand Prix des Pays-Bas. Un prono. Est-ce que. Vous répondez court, hein, Jean-Luc et Jean-Claude. Est-ce que Quartararo va remporter son premier Grand Prix cet après-midi ? Oui ou non ?
Jean-Luc.
Alors. Moi, je réponds oui, parce qu'il a démontré, effectivement, comme l'a dit Jean-Claude, il a été très bien depuis le début du week-end. Sa moto lui convient comme une botte ou comme un gant, si vous voulez. Moi, j'y crois.
Jean-Claude.
Alors, ben, oui, bien sûr, je suis un fan, un supporter, un pilote français à ce niveau-là. Évidemment que j'ai envie. La dernière fois qu'on m'avait demandé un pronostic pour cette émission, j'avais dit Vinales. Il avait été lamentable. Alors, je veux pas porter la poisse. Je veux pas porter la poisse à Fabio, mais évidemment, j'espère Fabio. Évidemment.
On espère tous Fabio, et ce sera à suivre parallèlement au Grand Prix d'Autriche sur RMC. Ça commence un petit peu plus tôt, hein, quand même, hein, 14h et 15h10 pour le Grand Prix d'Autriche. Voilà pour le rappel des horaires de cet après-midi. Merci beaucoup Jean-Claude Ogrel d'avoir été avec nous pour nous avoir apporté ton expertise et puis tes souvenirs et puis nous avoir partagé ta passion donc pour ce jeune Fabio Quartararo. Christophe Planet, d'autres infos?
Oui, on termine sur Radio Paddock avec quelques brèves F1 avec des rumeurs qui bruissent dans le paddock. Liberty Media l'a confirmé d'ailleurs ces derniers jours, des discussions sont bel et bien en cours pour que la Formule 1 puisse tenir une course proche du centre de Londres à l'avenir. Alors Jean-Luc, quid de Silverstone et y a-t-il de la place pour deux grands prix en Grande-Bretagne ?
Et la réponse malheureusement est non, et moi ça m'attriste beaucoup parce que ça c'est une tournure vers le sport spectacle, hein. Quel que soit le circuit que je ne connais pas, alors, ce sera pas au centre de Londres, c'est matériellement impossible, ce sera dans la périphérie, mais non, le vrai circuit c'est Silverstone, c'est là aussi le temple de la vitesse, c'est là que s'est déroulé le premier Grand Prix du championnat du monde de Formule 1 en 1950, un circuit qui a su évoluer, un circuit très rapide. On préférerait le show au sport, voilà, et si ça se passe comme ça, une nouvelle fois c'est une mauvaise décision que prendraient les instances de la Formule 1. Voilà.
Il est 13h57. Oui, tu as encore quelque chose à dire?
Ouais, juste par rapport à la polémique qui monte là sur les pneus Pirelli. Certains pilotes voulaient revenir à la version 2018. Un vote a été organisé parmi les écuries. Ce vote n'a pas permis de rassembler le nombre de voix suffisant pour autoriser un tel changement. Mais Adrien, la grogne monte quand même au niveau des pilotes sur ces pneus Pirelli.
Oui, je crois que les pilotes et puis certaines écuries...
Ils en ont marre de l'hégémonie Mercedes.
Ils en ont marre de l'hégémonie Mercedes, mais ils sont surtout marre de voir se mettre de se caler sur des faux rythmes et avoir un rythme artificiel en course, je crois, et puis on cherche des réponses à droite à gauche dans les écuries où ça fonctionne moins bien, ça a toujours été le cas. Maintenant, je pense qu'il faudra attendre la saison prochaine pour avoir des changements drastiques.
Messieurs, 13h57, il y a Luhamar qui frappe à la porte, hein. Il y a l'Intégral Sport sur RMC dans deux minutes maintenant. Il y a aussi donc ce Grand Prix des Pays-Bas que nous suivrons avec Angie Luata cet après-midi, ça démarre dans deux minutes. Le Grand Prix d'Autriche, on te retrouvera tout à l'heure Adrien, merci d'avoir été avec nous à partir de 15h10, à tout à l'heure Christophe, à tout à l'heure également, on te retrouve tout au long avec de l'après-midi. Plaisir. Jean-Luc, c'était un plaisir d'être avec toi.
Mais partagez Julien.
Et on se retrouve tout à l'heure Jean-Luc, évidemment, pour suivre la course en direct et pour le débrief tout à l'heure dans l'Intégral Sport. On va se régaler cet après-midi Jean-Luc.
Oui, c'est évident, ça va être formidable, on l'a dit, on y redit hein, tout à l'heure, ça vaut le coup vraiment de regarder ce Grand Prix, peut-être, ouais. Peut-être Ferrari qui mettra fin à l'hégémonie Mercedes, allez on y croit.
À tout à l'heure Jean-Luc, merci à tous d'avoir été avec nous pour Motors sur RMC, Luhamar, l'Intégral Sport dans un instant, il est 13h58.